Alors, nous avions, la dernière fois, commencé à envisager les raisons pour lesquelles ce que j'appelle la référence ou le paradigme aristotélicien perd de sa pertinence. Donc, je rappelle, évidemment, que je ne prends que quelques aspects qui me paraissent plus frappants ou plus pertinents par rapport à notre sujet. Et j'avais insisté que sur le fait que l'avènement des sciences expérimentales bouleverse le rapport de l'homme avec le cosmos, et Pascal nous avait servi d'exemple majeur, puisqu'on ne peut plus trouver dans le cosmos ordonné, comme chez les Grecs, une source de sagesse, mais plutôt une source de connaissance objective, puisqu'on a affaire à un univers mathématisé qui ne parle pas, sinon de manière mathématique, mais qui ne donne aucune référence possible pour un ordre à bâtir dans sa propre vie ou dans la vie collective. Donc cet aspect est tout à fait important, puisqu'il ruine, par certains côtés, une des références essentielles de la position aristotélicienne que nous avions évoquée dans les premières séances. J'avais noté encore, en m'inspirant cette fois-ci de Thomas Hobbes, je vous ai donné les dates dans le plan, 1588-1679, que pour autant la notion de nature ne disparaît pas de la philosophie politique. Notion toujours contestée, très difficile à préciser, parce que précisément, le contenu de cette notion varie énormément selon le contexte culturel, social, politique, scientifique dans lequel on se trouve. Ce qui me paraît essentiel de noter, c'est que, au lieu que la référence à la nature chez un Aristote, ou en général chez les Grecs, est une référence positive, une sorte de modèle qui ne donne pas les règles toutes faites, il y a toujours du conventionnel par rapport au naturel, enfin, qui est une référence relativement stable et solide pour asseoir les choses humaines. Dans le cas de nos auteurs modernes, la nature est toujours une référence, mais c'est une référence négative. Elle est plutôt ce par rapport à quoi il faut se détacher, ce dont il faut s'arracher, et non pas du tout un idéal auquel se mesurer. Alors, je m'étais appuyé d'abord sur la position de Machiavel, 1469-1529, florentin donc, antérieur aux réformes, dont nous allons voir l'importance dans un instant. Alors, pour Machiavel, qui est en ce sens tout à fait classique et moderne, moderne classique, la nature prend le visage de ce qu'il appelle la fortuna, c'est-à-dire une sorte de divinité capricieuse, irrationnelle, insondable et par beaucoup de côtés dévastatrice. Et il prend souvent, j'avais repris l'autre jour, l'exemple de la rivière l'Arno. L'Arno est une rivière apparemment paisible, mais qui à certains moments devient dévastatrice. Et sans raison, des crues, enfin sauf raison climatique, mais sans qu'on ait pu tellement prévoir, et en tout cas de manière qui n'est pas régulière, cet Arno déborde, envahit tout et détruit tout. Alors on pourrait donner comme conséquence de cette influence de la fortuna l'idée qu'au fond il n'y a rien à faire, puisque de toute façon la fortuna et la mort l'emporteront. Et c'est une tentation, en effet, que l'on voit tout à fait présente dans la pensée de Machiavel. En réalité, pour lui, il faut opposer à la fortuna la virtu, la vertu, mais le mot est un peu réduit en français, la virtu, c'est la force d'âme, la capacité, justement, de faire face, en créant des canaux, des barrages, etc. Et le rôle, précisément, du prince, c'est non pas de se laisser aller à la fortuna, de laisser les ennemis, par exemple, envahir Florence ou laisser le pays en déshérence, mais au contraire d'anticiper les événements, c'est-à-dire de construire à l'avance des barrages, des canaux, qui le jour venu endigueront la violence de l'Arnaud. En Digron, ne détruiront pas, n'effaceront pas ces possibilités. La Fortuna ne peut jamais être totalement vaincue. Ça, c'est un point évidemment tout à fait capital pour Machiavel, mais nous y reviendrons. La violence des hommes ou la violence de la nature ne peut pas être vaincue. Finalement, c'est bel et bien la mort qui l'emporte. Mais la dignité de l'homme, sa grandeur, comme celle des Romains qu'il admirait beaucoup, c'est précisément de faire face. On va dire que la virtu, c'est de faire face. Mais vous voyez, le contexte, c'est que la nature, il faut s'en méfier. On ne peut pas se confier à l'Arnaud, on ne peut pas, parce que la rivière est bien tranquille en temps ordinaire, dormir sur ses deux oreilles. Il faut au contraire être averti des dangers toujours possibles et qui peuvent en effet aller au-delà de ce que l'on avait anticipé. Donc peut toujours être virtuellement destructrice. Bon, GSA, c'est un exemple, je crois, très intéressant, cette position de Machiavel, mais je vais m'arrêter un peu plus, j'avais déjà commencé à m'arrêter un peu plus, sur la position de Hobbes. Donc Hobbes, c'est 1588-1679, lui est donc postérieur aux guerres de religion, et nous verrons dans un instant l'importance de cette référence. Alors, les deux œuvres de Hobbes les plus connues, c'est évidemment son Léviathan, gros livre, mais on a aussi un petit peu, sur le même ton, Le Citoyen, le De Quiwe, sur lequel je m'étais appuyé. Alors, je ne reviens pas d'abord sur un premier point sur lequel j'avais un peu insisté, c'est que la cible de Hobbes, ce n'est pas un hasard, c'est évidemment Aristote, et notamment le thème de l'amitié. Les hommes ne sont pas amis les uns des autres. C'est au contraire, si d'ailleurs ils étaient tous amis, il n'y aurait pas besoin de répartition en nations, en États, il n'y aurait pas besoin de se défendre, on connaîtrait une sorte d'universel de l'humanité sans qu'il y ait besoin de frontières ni de police. En réalité, la situation des hommes est une situation de crainte mutuelle, et c'est ce qu'il appelle la condition naturelle. Alors je reviens, je crois que je m'étais arrêté à peu près là-dessus. La condition naturelle, qu'il appelle quelquefois l'état de nature. Mais il faut, je crois que le mot préférable, c'est natural condition, la condition naturelle, ce qui serait la condition de l'homme hors de la condition politique, political condition. On pourrait dire l'homme mis à nu hors loi, hors mœurs, hors organisation politique. Qu'est-ce qu'il en serait de cette condition naturelle? Alors, cette condition naturelle, elle est d'abord marquée, je viens de le dire, je l'ai rappelé l'autre jour, par la crainte mutuelle. La crainte mutuelle, à l'inverse de ce que pense Aristote et de ce qu'il promeut, ce n'est pas l'amitié qui règne entre les hommes, mais c'est plutôt la méfiance. Et l'argument, je crois, il y a plusieurs arguments, mais l'argument majeur de Hobbes, c'est de dire « regardez en vous-même, connais-toi toi-même », c'est pour lui une des références majeures. Il ne s'agit pas de faire de théorie, mais de regarder ce qu'il en est. Chacun peut expérimenter en lui-même cette peur mutuelle. Donc, ne venez pas dire « Hobbes est de mauvaise humeur, c'est un pessimiste ». Regardez ce que vous faites vous-même. Et il prend l'exemple que je vais moi-même donner. Lorsque vous quittez votre appartement, évidemment, vous avez une telle considération amicale pour les hommes que vous ne fermez pas votre porte à clé. Bon, en réalité, vous êtes obésien sans le savoir, puisque vous fermez votre porte à clé, ou si vous venez en vélo, au centre C, vous mettez soigneusement un cadenas à votre vélo. Donc, concrètement, nous vivons dans la crainte mutuelle et non pas dans l'amitié. C'est la condition naturelle de l'homme. D'où vient cette condition naturelle? Deuxième point, ce que j'avais à peine évoqué l'autre jour, c'est que tous les hommes sont égaux. Alors, il faut faire très attention ici, c'est pas l'égalité républicaine ou démocratique, c'est pas l'égalité de droit. C'est l'égalité que chacun a, même le plus faible, de tuer le plus fort. Même le plus faible est capable d'enfoncer son épée dans l'estomac du plus fort. En ce sens-là, tous les hommes sont égaux, et donc on ne sait jamais si celui qu'on va rencontrer ne sera pas celui qui vous tuera. Voilà l'égalité. Donc vous voyez qu'on est très loin de l'atmosphère que j'avais appelée un peu optimiste de l'excellent Aristote, qui voit en tout autre un ami. Ici, il faut au contraire se méfier, parce que chacun a l'aptitude, en effet, à tuer l'autre. C'est son égalité. Je vais citer le passage célèbre dans le premier livre du Citoyen, chapitre 3. Sont égaux ceux qui peuvent chose égale, or ceux qui peuvent ce qu'il y a de plus grand et de pire, à savoir ôter la vie, peuvent toute chose égale. Tous les hommes sont donc naturellement égaux. L'inégalité qui règne maintenant a été introduite par la loi civile. Donc c'est la loi qui crée des inégalités, mais naturellement les hommes sont égaux puisqu'ils peuvent se tuer l'un et l'autre. Alors, troisième que je n'avais pas abordé l'autre jour, troisième élément de cette condition naturelle, c'est que chacun, chaque homme, a le droit naturel de vivre et de prendre tous les moyens nécessaires pour vivre. C'est ce qu'il appelle le droit de nature. Nous avons chacun un droit de nature qui est le droit de vivre, de prendre tous les moyens pour cela, donc de posséder des biens, de s'enrichir. Et évidemment, ce droit de vivre entraîne le droit de se défendre. Droit de vivre physiquement. C'est par le corps que nous avons ce droit de vivre. C'est un droit incontournable, et je crois que c'est un point capital, c'est un droit indépassable. Jamais, pour Hobbes, un homme ne peut abandonner ou transférer ce droit de nature. Donc ce droit de nature lui donne un pouvoir sur toute chose, et donc sur tous les autres, éventuellement pour défendre sa vie. Alors vous voyez que si nous sommes chacun dotés de ce droit de nature, évidemment on est dans une situation virtuelle, d'hostilité mutuelle, puisque chacun peut estimer que son droit de nature, eh bien, c'est d'empiéter sur mes biens, c'est de les posséder, ou c'est de m'en déposséder, ou c'est éventuellement, évidemment, de me tuer. Alors, on voit tout de suite, c'est le dernier caractère qui va nous faire passer à la suite, que cette situation de condition naturelle, où les hommes peuvent se tuer mutuellement, où ils ont donc peur les uns les autres, où ils ont un droit irréductible et absolu à vivre, c'est une situation, c'est une condition intenable. On ne peut pas rester dans cette condition naturelle, parce que c'est une condition dans laquelle l'instabilité, l'insécurité, l'incertitude sont permanentes. Donc il faut trouver le moyen de sortir de cette condition naturelle. C'est en ce sens que je dis qu'il y a toujours une référence à une nature, si on veut. Mais de cette nature, il faut absolument sortir, il faut s'émanciper. D'où le troisième point, qui sera l'institution de la République. Mais je voudrais avant, si vous voulez, que nous regardions le texte que je vous avais remis, je pense que vous l'avez, qui est un passage du Léviathan, dans la première partie, le chapitre 14. Si vous n'avez pas ce texte, vous devez encore en avoir quelques-uns en réserve. Alors, je le lis en le commentant brièvement. Le droit de nature, right of nature. Alors, première remarque, il faut toujours faire très attention quand on s'intéresse à un philosophe, au vocabulaire qu'il utilise et au sens qu'il donne aux mots. Ici, Hobbes va parler d'un droit de nature, c'est une formule qu'on pourrait retrouver chez beaucoup d'autres, mais il donne un sens très particulier à ce mot « droit de nature ». Et donc on fait des contresens, on passe à côté de ce qu'il veut dire, si évidemment on projette d'un auteur sur un autre. Si on dit « saint Thomas a parlé d'un droit de nature, mais ce n'est pas du tout ça, Hobbes n'a rien compris ». Non, chaque auteur a bien le droit de définir, à condition d'être cohérent avec lui-même, ce qu'il entend par les mots. Il faut faire attention de ne pas se laisser soi-même piéger. Alors, le droit de nature, que les auteurs appellent généralement « jus naturale », donc vous voyez, les auteurs ont parlé d'un « jus naturale », bien entendu, c'est la grande tradition, compris déjà chez Aristote, Mais puisque les auteurs en ont parlé, Hobbes va se distinguer d'eux, ils en ont parlé d'une certaine façon, mais moi je vais le définir ainsi, c'est le droit de nature, que les auteurs appellent généralement naturale, est la liberté qu'a chaque homme d'user comme il veut de son pouvoir propre pour la préservation de sa propre nature, c'est-à-dire de sa propre vie. Donc c'est très intéressant de voir que la liberté n'est pas définie ici, comme disons chez un Kant, par la raison, par l'autonomie, par la référence à quelque chose comme une norme au nom de laquelle on conduit sa vie. La liberté coïncide avec le pouvoir de vivre. On pourrait dire que ça se rapproche un peu, si vous le connaissez, de Spinoza. Bon, mais je laisse de côté les comparaisons toujours un petit peu fallacieuses. Donc la liberté est définie comme une sorte de pouvoir vivre inhérent à tout homme, et donc qui inscrit en lui le pouvoir de préserver sa propre nature, c'est-à-dire sa propre vie. Donc voilà, une affirmation extrêmement forte, et vous voyez déjà toute la différence avec Aristote, c'est-à-dire que le point central ici, c'est l'individu, c'est pas la cité, c'est l'individu doté d'un pouvoir, on pourrait dire infini, de défendre sa propre vie. Et en conséquence, de faire tout ce qu'il considérera selon son jugement et sa raison propre, nous allons revenir là-dessus, comme le moyen le mieux adapté à cette fin. Donc on pourrait dire l'anthropologie d'Hobbes, elle est tout entière là. L'homme a le droit de vivre absolument et de prendre tous les moyens qu'il estime bon de prendre pour préserver ce droit de nature. On entend par liberté en anglais, selon la signification propre de ce mot, l'absence d'obstacles extérieurs. Vous voyez, c'est donc pas du tout une liberté intérieure, une liberté d'autodétermination, c'est une liberté de mouvement, comme un corps est libre quand il peut se mouvoir à son aise, sans obstacle qui l'empêche de se mouvoir. Donc un animal est libre, par exemple un chien est libre, s'il peut courir comme il l'entend, sans qu'il y ait d'obstacle. Il n'est pas libre s'il est évidemment enchaîné ou mis dans une cage. Donc la liberté, c'est ce qui permet au mouvement de se déployer. Donc la liberté, c'est l'absence d'obstacles extérieurs, lesquels peuvent souvent enlever à un homme une part du pouvoir qu'il a, de faire ce qu'il voudrait, mais ne peuvent l'empêcher d'user du pouvoir qui lui est laissé, conformément à ce que lui dicteront son jugement et sa raison. Donc ce n'est pas une liberté absolue, bien entendu, il peut y avoir des obstacles, ne serait-ce que son propre corps, on ne peut pas courir indéfiniment, il y a un temps de fatigue, il y a des limites, etc. Donc, droit de nature, liberté, et il y a coïncidence, en un sens, entre liberté et droit de nature. L'homme a le droit absolument de vivre et de prendre tous les moyens pour cela. Une loi de nature, alors, il distingue tout à fait clairement, droit de nature, qui est en quelque sorte inhérent à l'homme lui-même, et la loi de nature, lex naturalis, qui est un précepte ou une règle, donc une sorte de représentation qu'on se donne, c'est une conception qu'on se fait ou qu'on trouve, une loi de nature, découverte par la raison. Le droit de nature est tellement vital qu'il n'est pas découvert par la raison. Nous voulons vivre, et nous voulons prendre tous les moyens de vivre. C'est, on pourrait dire, infrarationnel, c'est consubstantiel à l'homme lui-même. La loi de nature, c'est cette règle par laquelle, je lis le texte, il est interdit aux hommes de faire ce qui mène à la destruction de leur vie ou leur enlève le moyen de la préserver ou d'omettre, to omit, ce par quoi ils pensent qu'ils peuvent être le mieux préservés. Donc, la loi de nature, ou la loi naturelle, elle est une réflexion que l'on fait sur soi-même par la raison. Si je réfléchis, je découvre les moyens grâce auxquels je vais pouvoir éviter la destruction et trouver les moyens de vivre, et de vivre naturellement. En effet, encore que ceux qui parlent de ce sujet aient coutume de confondre, voilà, critique de la tradition, jus et lex, droit et loi, on doit néanmoins les distinguer. Car le droit consiste dans la liberté de faire une chose ou de s'en abstenir, donc c'est le droit naturel, la liberté inhérente à l'homme, alors que la loi détermine et lie à l'un et à l'autre. La loi prescrit, la loi limite, le droit est infini. Encore une fois, selon la conception de Hobbes, il faut bien faire attention, ce n'est pas admis par tout le monde, bien entendu, c'est dans sa propre philosophie. De sorte que la loi et le droit diffèrent exactement comme l'obligation et la liberté. Le droit, c'est la liberté de vivre. L'obligation, c'est la règle que je découvre de trouver les moyens nécessaires à ma survie, qui ne saurait qu'exister sur un seul et même point. Et parce que la condition de l'homme est une condition de guerre, de chacun contre chacun, situation où chacun est gouverné par sa propre raison, et qu'il n'existe rien dans ce dont on a le pouvoir d'user qui puisse éventuellement aider à défendre sa vie contre ses ennemis, il s'ensuit que dans cette condition, donc c'est toujours la condition naturelle, tous les hommes ont un droit sur toute chose, et même sur le corps des autres. Et par conséquent, aussi longtemps que dure ce droit naturel de tout homme sur toute chose, nul, aussi fort et aussi sage soit-il, ne peut avoir la sécurité de parvenir au terme de vie que la nature accorde ordinairement aux hommes. Donc voilà une condition insoutenable. En conséquence, c'est un précepte ou une règle générale de la raison que tout homme doit s'efforcer à la paix aussi longtemps qu'il a un espoir de l'obtenir. Et quand il ne peut pas l'obtenir, il peut rechercher et utiliser toutes les aides et tous les avantages de la guerre. La première branche de cette règle, qui contient la première et fondamentale loi de nature, est de chercher et de poursuivre la paix. La seconde, somme du droit de nature, est le droit de se défendre par tous les moyens dont on dispose. Donc, et c'est ce qui va nous faire passer à la suite, lorsque l'homme, dans cette condition naturelle, réfléchit, et pour Hobbes, réfléchir, ça veut dire calculer son intérêt. Ce n'est pas du tout une réflexion métaphysique, transcendantale, ontologique, substantielle. La raison, je lirai des textes tout à l'heure, c'est une question de calcul. Donc, à ce point de vue-là, il est très british, très utilitariste. Je calcule mon intérêt. Je calcule que mon intérêt fondamental, qui coïncide avec ma liberté, c'est de vivre. Premier point. Je calcule que pour vivre, je dois chercher la paix. La paix avec tous les autres. Je dois présupposer que les autres vont faire la même réflexion. Troisième principe, ou troisième loi. Et nous allons comprendre les uns et les autres qu'il nous faut passer dans une condition telle que quelqu'un assure la sécurité de tous et nous empêche de nous battre. C'est le souverain ou le commonwealth. Vous voyez, donc la condition politique découle d'un calcul de la raison que nous faisons pour instituer un commonwealth, une condition politique, avec un pouvoir qui, d'une certaine façon, neutralise, écarte les uns des autres, les individus toujours prêts à se battre. Donc, une force qui s'impose à nous, de telle sorte que nous soyons dans la sécurité, la force de la loi ou la force du souverain. Voilà, c'est donc le passage de la condition naturelle à la condition politique. Alors, c'est le deuxième point de mon exposé. Vous voyez que nous avons affaire à une sorte de théorème, et Hobbes est en effet un auteur extrêmement logique, extrêmement rigoureux, et d'une certaine façon un pas vide dans la conclusion. Si nous voulons vivre, il faut bien que nous calculions notre intérêt. Notre intérêt, c'est de vivre dans la sécurité. Et donc, il faut que nous trouvions des institutions telles qu'elles soient capables d'assurer cette coexistence entre les individus. Bon, je vais revenir là-dessus. C'est ce qui nous fait passer au deuxième point, c'est-à-dire la politique doit être instituée. Alors, je dirais, voilà, un point tout à fait remarquable, c'est que la condition politique n'est pas naturelle, à la différence d'Aristote. La condition politique doit être voulue, elle doit être instituée. Donc c'est aux hommes de comprendre pourquoi il faut se donner des lois, quel type de loi il faut se donner, ce n'est pas naturel. Ce qui est naturel, c'est la lutte, c'est la guerre, c'est l'hostilité, l'inimitié, la peur, la crainte, etc. Tout ce qu'on voudrait, autant de choses qu'on trouve dans le texte de Hobbes. Situation intenable. Donc, il faut que nous nous donnions des institutions telles que nous puissions vivre en sécurité. C'est l'institution du Commonwealth. Alors, je reprends mes deux exemples de Machiavel et de Hobbes. J'espère que ça ne fait pas trop de confusion. Mais des deux côtés, on a la même idée que la cité n'est pas naturelle, que l'homme n'est pas naturellement politique, qu'il est naturellement en opposition les uns avec les autres. Alors, dans le cas de Machiavel, eh bien, la cité relève de la volonté humaine, faute de quoi elle est entraînée dans le chaos et dans la mort. Prenons l'exemple de l'Arnaud, qu'il prend lui-même et qui, je crois, est finalement très éclairant. Alors, on peut laisser faire, bon, ne rien construire sur l'Arnaud, et vous verrez un beau jour que Florence sera dévastée, toutes les plaines aux alentours, les cultures seront dévastées elles-mêmes. Donc, il est impossible de vouloir la cité selon la nature, il faut qu'elle soit instituée, alors à la fois parce que c'est le rôle du prince de fonder la cité. On pourrait dire que Machiavel est un penseur de la fondation. Et c'est d'ailleurs pourquoi il a beaucoup médité sur la fondation de Rome, les premières décades de Tite-Live. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Rome a été fondée? Quelles sont les raisons, etc. Et il faut fonder à nouveau. Alors évidemment, il a en tête la division de l'Italie. C'est un Florentin, mais c'est un nationaliste. Il est conscient, là je ne rentre pas dans les détails, c'est un peu compliqué, que l'histoire de Florence est une histoire de domination par des puissances étrangères, le Saint-Empire romain germanique, les Français qui viennent d'envahir, avec Charles VII je crois, Florence, et il est conscient que l'Italie est foncièrement divisée, ce qui ne devrait pas être. Donc, son petit livre du prince se termine par un appel à un prince, si possible un Médicis, c'est-à-dire un Florentin, qui serait capable de créer l'unité italienne, de faire l'unité italienne. Mais indépendamment de ce contexte historique très précis, et qui en effet est essentiel dans les motivations de Machiavel, il y a une idée plus générale, c'est qu'une cité doit être sans cesse fondée. N'est-ce pas la fameuse formule « se réapproprier le pouvoir ». Alors, il y a une interprétation machiavélique, consiste à dire, ben voilà, le prince doit faire des ruses pour se faire vouloir à nouveau. Ben, on a souvent dit ça à propos de De Gaulle et des référendums, le chaos ou moi, c'est-à-dire tous les trois ans, on remet la mise et on remobilise les volontés du peuple pour qu'il veuille le général De Gaulle à nouveau. Bon, ça c'est la version machiavélienne. L'idée de Machiavel, je crois, est beaucoup plus fondamentale, c'est que tout pouvoir et toute cité, je le disais l'autre jour, se corrompt. Pas au sens de la corruption de Depardieu ou de Hénault ou des banquiers, Mais au sens de la corruption naturelle, vous laissez un fruit à lui-même, il va se corrompre, c'est-à-dire il va se déliter. Bon, la nature connaît la corruption. Eh bien, toute cité se corrompt un jour où les institutions fonctionnent plus, où il y a de nouveaux problèmes qui se posent, etc. Donc, il faut refonder la cité régulièrement. Se réemparer du pouvoir, c'est refonder la cité. Et ça dépend du prince. Il faut qu'un prince soit capable de refonder le pouvoir. Alors, l'idée, c'est aussi que on peut pas s'appuyer sur des modèles anciens. Il y a un nouveau critique ici de la tradition grecque et un peu romaine, bien que Machiavel soit beaucoup plus sensible à glorieux passé romain. Et il y a l'idée que, voilà, la cité moderne ne peut plus trouver de modèle dans l'Antiquité. Il y a aussi l'idée, parce qu'il ne faut pas oublier que 1492, c'est la découverte du Nouveau Monde. Et Machiavel se compare un peu, toute proportion gardée, à Christophe Colomb, qui découvre des terres nouvelles. Alors, Christophe Colomb s'est trompé, il est allé en Inde, il va en Amérique, mais il a trouvé une voie nouvelle. Alors, l'idée de Machiavel, qu'on trouve d'ailleurs aussi chez Hobbes, c'est que on ne peut plus imiter les anciens. Il faut les consulter, il faut les lire, etc., mais il faut prendre des moyens nouveaux. Parce que les questions sont elles-mêmes nouvelles. Donc, il faut fonder une cité, comme un peu Christophe Colomb découvre un nouveau monde et fonde finalement un nouveau monde. Donc, même si on admire les anciens, il faut se garder de les imiter tout à fait. Mais il faut faire ce qu'ils ont fait. Ça, c'est aussi une idée de Pascal. Les anciens n'ont pas imité, ils ont été créateurs. Le problème, c'est que les disciples imitent les maîtres. Mais les maîtres, eux, ils ont été créateurs. Donc, la véritable imitation des anciens, nous dit Machiavel, mais c'est aussi ce que Pascal dit dans sa célèbre préface sur le discours du vide, les anciens ont été créateurs. Donc, imiter les anciens, c'est pas les copier, c'est être soi-même créateur. C'est une très belle idée, je crois. Saint Thomas a inventé le thomisme. Les thomistes répètent Saint Thomas. Donc, ils trahissent Saint Thomas, par la force des choses. Et on pourrait dire la même chose des aristotéliciens. Aristote ou Saint Thomas n'ont imité personne. Ils ont créé une œuvre. Bon. Voilà, imiter Saint Thomas, c'est penser par soi-même. Alors, on pourrait dire pour Machiavel, c'est un peu la même chose, c'est une pensée de la fondation. Et ce qui est tout à fait capital, c'est que cette fondation, pour Machiavel, n'est jamais posée une fois pour toutes. Donc, il n'y a pas de modèle de cité, il n'y a pas de référence idéale, il n'y a pas de constitution posée une fois pour toutes. Ça, c'est très important pour une réflexion politique. Le prince, qu'il appelle le prince, dont le gouvernant doit être toujours en vigilance, à nouveau comme pour l'Arnaud. Voilà, tout est calme, mais écoutons quand même les craquements, regardons le ciel, écoutons la météo, etc. Prenons les devants. Alors, il y a l'idée d'une fragilité du politique, c'est le titre d'un petit livre que j'avais consacré à Machiavel, une fragilité du politique qui peut toujours se déliter, et le rôle du prince est absolument essentiel pour refonder la cité. Elle n'est pas dans la nature, elle peut s'effondrer, disparaître. Et Machiavel, je dirais, plus que d'autres, est conscient de ce que les civilisations sont mortelles, c'est-à-dire, bon, il voit bien que l'Empire romain, qui était si magnifique, si beau, ou la République romaine, ben, tout ça est tombé dans la poussière. Bon, et les royaumes sont appelés aussi, éventuellement, à tomber dans la poussière. Donc, le rôle du politique, c'est d'instituer la cité, et d'avoir le courage de la refonder. Jamais fondé une fois pour toutes. Il faut se ressaisir du pouvoir. Je crois que c'est le sens très profond du thème, se réemparer du pouvoir. Se ressaisir du pouvoir, c'est-à-dire le refonder. Alors, dans le cas de Hobbes, on a une position, je dirais, analogue. Il y a d'abord cette idée, qui est assez caractéristique finalement de la philosophie politique moderne, qu'on ne peut pas s'appuyer sur les anciens. Ça relaie déjà la critique que j'ai rappelé l'autre jour de la critique d'Aristote. Mais il y a quelque chose de plus fondamental chez Hobbes, c'est que on ne peut pas imiter les anciens, parce que les situations sont nouvelles, mais surtout, et voilà l'argument, parce qu'ils ont méconnu ce qu'il en est de l'homme. J'avais déjà cité ce texte un peu méchant, parlant de la légèreté d'Aristote, il faut quand même le faire, parler de légèreté à propos d'Aristote, mais l'idée c'est qu'au fond, les anciens ont méconnu ce qu'il en est de l'homme. Or, dit Hobbes, là, c'est le début des sciences expérimentales, nous commençons à connaître la nature des choses, la biologie, la médecine, astrophysique commence à nous faire connaître la nature des choses. Nous pouvons mobiliser notre raison calculatrice pour calculer la marche des planètes, la circulation sanguine. Et ce que l'on peut faire au niveau des sciences naturelles, pourquoi ne le ferait-on pas au niveau des sciences politiques ? Voilà un point essentiel. Le modèle, c'est les sciences, et notamment les sciences mécaniques. De même qu'on arrive très peu à peu à connaître ce qu'il en est d'un organisme humain, les divers organes, leur fonctionnement, les dysfonctionnements, est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer à la société humaine les mêmes méthodes ? Évidemment, les anciens ne connaissaient pas, ils allaient, j'allais dire, au pifomètre. Mais nous sommes peut-être capables de connaître. Et Hobbes se donne dans l'épître dédicatoire, s'appelle l'épître dédicatoire du Léviathan, ce projet. Jusqu'à présent, on n'a pas compris ce qu'il en est de la nature de l'homme, et donc tous les systèmes sur lesquels on s'est appuyé se sont effondrés, ou du moins n'ont pas permis d'assurer la sécurité des hommes. Mais maintenant, nous allons pouvoir peut-être connaître ce qu'il en est. Alors, la grande idée, c'est en effet, et elle va avoir beaucoup de succès dans la tradition, c'est de faire une philosophie scientifique de l'homme et de la société, qui va offrir les bases réelles de l'être ensemble. Alors, vous voyez à nouveau que par là, la République est un artefact. La République est une construction. De même que, c'est un exemple qui prend souvent, au fond, pour réparer une horloge ou une montre, il faut la démonter dans ses éléments, observer la marche des pièces et les pièces défaillantes et remonter. De même, à l'égard de l'homme, on va pouvoir démonter ce qu'il en est de lui, comprendre comment ça marche et reconstituer une société sécurisée et pacifique. La politique est donc une science et un art. Hobbes a même cette audace de dire la création de Dieu, le fiat primitif, c'est l'art par lequel Dieu crée le monde. Vous voyez donc, la nature est un art. La nature est un artifice. La nature est un artefact. La nature a été fabriquée par Dieu. Eh bien, de même que Dieu a fabriqué la nature, de même, les hommes vont pouvoir fabriquer des institutions et des constitutions. La République, ce qu'il appelle le Commonwealth, est donc un artifice, un art produit par l'homme, comme Dieu a produit la nature, qui n'est elle-même qu'un artifice. Alors, quels sont ces éléments constitutifs ? Eh bien, ces éléments constitutifs de l'homme, c'est d'une part les passions et d'autre part la raison. Les passions, il faut partir des passions. Alors, évidemment, pour nous, ça paraît une banalité extrême. Mais par rapport à la tradition philosophique et théologique, c'est évidemment un geste philosophique tout à fait révolutionnaire et inouï. Parce que la tradition, aussi bien philosophique que surtout théologique, dit que ce dont il faut partir, c'est de l'idéal. C'est de ce vers quoi les hommes tendent. C'est la finalité de l'homme. C'est le bien commun. C'est en fonction du bien commun que le prince doit diriger la cité, que l'on va établir de bonnes constitutions. Et ce bien ne peut être atteint que si les hommes domestiquent leurs passions. Parce que si chacun ne pense qu'à lui-même, qu'est-ce qu'il en sera du bien commun, l'intérêt public ? Disons, en gros, c'est quand même une position chrétienne, entre guillemets. La position de Hobbes, c'est-à-dire pas du tout. Il faut partir des passions. Il faut partir des mouvements élémentaires, comme en mécanique, il faut partir des mouvements élémentaires. Et ce mouvement élémentaire, c'est la droite nature. C'est le désir de vivre. C'est cela la racine de tout. À partir du désir de vivre, les hommes ont l'ambition, ils cherchent la gloire, ils cherchent la réputation, Ils cherchent les honneurs, ils cherchent la richesse. Si vous ignorez ça, vous bâtissez sur le sable. Ça, c'est un point absolument capital. Ce qui fait dire, j'ai parlé l'autre jour de Léo Strauss, parmi les philosophes quasi contemporains et qui ont grandement admiré les Grecs et qui ont redouté que l'on ait perdu la référence à la nature. Léo Strauss, commentant Hobbes, dit « Eh bien, avec Hobbes, nous redescendons dans la caverne. » Vous vous souvenez de la caverne de Platon ? Il faut sortir du sensible pour aller vers l'idée, et à partir de l'idée, reconstruire la cité, pour simplifier. Eh bien, dit Léo Strauss, Hobbes nous enferme dans la caverne. Il faut partir des passions. Il faut partir de ce qui meut les hommes. Mais bien entendu, deuxième élément, il faut que ces passions se conjuguent. Et la raison, deuxième élément de l'anthropologie hobbésienne, la raison nous fait calculer l'intérêt de nos passions. Nous avons la passion de la gloire, la passion de la richesse, la passion... Bon. Mais nous avons avant tout la passion de vivre. Alors, si nous avons la passion de vivre, nous pouvons comprendre par notre raison, en calculant notre véritable intérêt, que nous avons intérêt à la paix avec tous. Voilà ce sur quoi il faut bâtir. Les passions, et on ne vaincra pas les passions. Alors attention, hein, chez Hobbes, il n'y a pas du tout de morale au sens où on dira il faut qu'on domine les passions, il faut les atténuer, etc. Non, il faut jouer avec les passions. C'est d'ailleurs le libéralisme. Hein. C'est le libéralisme. Quand on vous dit acheter, consommer, changer votre voiture tous les 6 mois, changer de frigo tous les 3 mois, etc. On attise vos passions. Et on vous dit c'est comme ça que le marché fonctionne. Si on vous disait, ah non, non, changez jamais de voiture, surtout gardez vos vêtements pendant 20 ans, ben, l'économie croule, vous voyez, en gros. Donc la position de Hobbes, elle est tout à fait cohérente avec le libéralisme moderne. Non seulement on vous dit ne limitez pas vos passions, mais on dit au contraire, c'est très bien de désirer changer d'appartement, aller au sport d'hiver en février, consommer, consommer. Bon, mais il faut le faire de manière rationnelle, économie rationnelle. Donc là, pour Hobbes, j'en reviens à Hobbes, les lois naturelles, les lois de nature nous font comprendre que nous avons intérêt, par le calcul rationnel, à nous rassembler pour avoir des institutions de paix. Nous allons voir à quel prix tout à l'heure. Bon, voilà, le point que je voulais souligner dans cet aspect, c'est précisément l'idée d'une institution, d'une constitution, d'une dépendance de la condition politique, de la volonté humaine. C'est à l'homme de vouloir cette cité. Dans le cas de Machiavel, c'est un prince qui doit refonder régulièrement la cité. Dans le cas de Hobbes, eh bien, c'est les hommes qui doivent calculer qu'au fond, ils auront intérêt à vivre dans une république, je le dis tout de suite, qui va limiter évidemment leur droit de vivre, parce que les lois vont interdire de tuer, vont interdire de voler, mais au fond, il vaut mieux ça que cette guerre permanente et sournoise où chacun est l'ennemi de chacun. Mais nous pouvons comprendre ça. Donc il faut bien faire attention quand Hobbes ou les autres parlent de contrat social. Ça ne veut pas dire qu'un beau jour on s'est rassemblés, qu'on a discuté, qu'on s'est mis d'accord sur une constitution. Ça veut dire que chacun, quand il fait ce travail de connaissance de soi, connais-toi toi-même, comme dit Hobbes, il peut comprendre qu'en effet, il a intérêt à vouloir la cité avec son ordre et sa justice, même si ça lui coûte. Il faut payer des impôts, il faut faire son service militaire, il faut obéir aux lois, etc. Bon, mais je comprends qu'au total, mieux vaut ça, je vais revenir évidemment là-dessus, que la guerre de tous contre tous. Alors, le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'on comprend pourquoi, j'y ai insisté en passant, cette pensée politique moderne insiste tant sur l'individu. Sur l'individu. Tout ce que je viens de dire, n'est-ce pas, dans la ligne de Hobbes, ça suppose un individu qui a des passions et qui calcule. Donc, l'élément de base, la cellule de base, si je puis dire, de cette pensée philosophique, c'est l'individu dans sa passion et dans sa rationalité. Ce n'est pas la cité. Dans le cas de notre ami Aristote, ce qui prime, c'est pas l'individu, c'est la cité. Qui assure éventuellement, et même certainement à la personne, le bonheur, le bien-vivre, etc. Mais ce qui prime d'abord pour Aristote, c'est la cité. J'avais insisté en exposant la pensée d'Aristote sur la coïncidence entre l'humanité et la citoyenneté. Le véritable homme est le citoyen d'une cité. Hors de la cité, il n'y a, comme dit Aristote, que d'une bête, un animal ou des dieux. Donc, et on trouvera d'autres raisons tout à l'heure, quelle peut être la base de la reconstitution politique, sinon l'élément le plus simple, c'est-à-dire l'individu dans ses passions. Et on a là le point de départ d'une forme d'individualisme. La pensée moderne, la pensée politique moderne, part de l'individu. Comme l'individu lui-même est un individu passionné, on ne peut pas partir de l'idéal. Pour une raison que je vais dire aussi tout à l'heure, c'est que les hommes ne sont plus d'accord sur l'idéal. Les guerres de religion sont passées par là. C'est-à-dire qu'on n'a plus de conception unanime sur ce qu'il en est du destin de l'homme. Puisqu'on n'est plus d'accord sur l'idéal, il y a des protestants, il y a des luthériens, des calvinistes, il y a des catholiques, il y a des humanistes. Sur quoi voulez-vous qu'on se base pour fonder une cité ? C'est d'ailleurs le problème de notre laïcité. Sur quoi peut-on se baser ? Pas sur des références substantielles, comme dirait Habermas. Parce qu'on n'est pas d'accord sur la substance. On va se référer sur le minimum. Et le minimum, c'est le désir qu'a l'individu de vivre. Et donc le rôle de la cité, c'est d'assurer à l'individu, de donner à l'individu les garanties qu'il pourra vivre, et si possible, vivre à sa façon, comme il le voudra. Alors c'est très intéressant de voir que ce sont les passions qui vont devenir constructives, constructrices de la société. D'où le thème que j'ai déjà abordé et qui est assez, que nous allons retrouver aussi tout à l'heure et les prochaines fois, qui est difficile à entendre, c'est l'idée de la méchanceté de l'homme. L'idée de la méchanceté de l'homme qu'il ne faut pas prendre dans un sens moral. Car les passions pour Hobbes ne sont pas moralement mauvaises. Les passions en elles-mêmes, sauf si elles vont trop loin, sont bonnes. Le désir de vivre est bon. Je reprends mon exemple du commerce. Acheter un frigo, c'est bon pour l'économie. Donc le désir d'avoir un frigo, le désir de s'habiller correctement, le désir d'aller passer des vacances de février à Courchevel ou ailleurs, c'est un désir qui est bon. C'est même un désir moteur pour l'économie. Donc il ne s'agit pas de se priver de ça. Mais en même temps, on va dire que l'homme est méchant peut-être par tradition théologique, et je vais lire un texte tout à l'heure là-dessus, mais je dirais volontiers comme on dit « chien méchant ». Le chien n'est pas méchant lui-même, n'est-ce pas? Ça c'est tout à fait du Hobbes, le chien est un chien. Simplement, si vous le battez, si vous vous présentez comme une menace, alors il devient méchant. Mais naturellement, il n'est pas méchant. Donc sa nature n'est pas méchante, il est ce qu'il est. C'est à vous de faire en sorte que... Alors on a déjà là un point très important. Parce que, ou bien on va dire, et Hobbes ne le dira pas, l'homme est méchant de nature. La conclusion en est que, évidemment, on ne peut pas le transformer. Ça va être un peu la position de Kant. Il est un bois tordu, et avec un bois tordu, noueux, vous ne pouvez pas faire des planches. Inutile de chercher. Bon. Ou bien on va dire, il est mauvais, parce qu'il ne sait pas. Donc on va l'éduquer. On dirait la ligne de la philosophie des Lumières. La position de Hobbes, c'est encore une autre, c'est que l'homme est méchant, mais il peut calculer des accords possibles avec les autres. En tout cas, l'idée de méchanceté, c'est comme dans le cas du chien, c'est une virtualité. L'homme n'est pas installé dans la méchanceté, il peut devenir méchant s'il est menacé. Autrement dit, si vous êtes attaqué dans la rue, vous allez vous défendre. Et vous allez éventuellement tuer. Mais c'est pas que vous êtes un tueur de naissance. C'est qu'on vous a menacé dans votre droit de nature, ben vous rétorquez. Et vous tuez. Alors, il prend l'exemple des nuages. quand on dit « le temps est à la pluie », ben, on ne dit pas qu'il va nécessairement pleuvoir. On dit que c'est une possibilité. Donc, si ça se réchauffe, si... il va peut-être pleuvoir. Voilà, c'est une virtualité qui n'est mise en œuvre que lorsqu'il y a tout d'un coup un événement qui se produit. Alors, je vais lire un petit passage de, du Dekiwe, de la préface de ce texte, très intéressant. Voilà, donc il expose la méthode que j'ai dite, il prend l'exemple de l'horloge qu'on décompose et qu'on recompose. Donc il faut partir des passions, il faut partir de l'idée que l'homme peut calculer comment il pourra répondre au mieux à ses passions. Suivant cette méthode, je mets d'abord pour un premier principe que l'expérience fait connaître à chacun, connaître toi-même, et que personne ne nie, que les esprits des hommes sont de cette nature que, s'ils ne sont retenus par la crainte de quelque commune puissance, c'est l'idée du Commonwealth, ils se craindront les uns les autres, ils vivront entre eux en une continuelle défiance, et comme chacun aura le droit d'employer ses propres forces en la poursuite de ses intérêts, il en aura aussi nécessairement la volonté. Quelques-uns ont fait cette objection, que, supposant ce principe, il s'ensuivra de là que non seulement tous les hommes sont méchants, entre parenthèses, ce que peut-être il faut avouer, bien qu'il soit un peu rude, puisque l'Écriture sainte le dit expressément. Alors je reviendrai là-dessus. Il y a évidemment chez Hobbes, qui est un bon luthérien, luthérien, il y a évidemment une certaine lecture de la tradition chrétienne, qui voit dans l'homme un être pécheur. Donc, il y aura un court-circuit qu'il va éviter par la parenthèse, qu'on serait à dire, voyez, les Écritures le disent, que l'homme est méchant, hein, que l'homme est, nous allons trouver chez Luther cette idée. Bon, il hésite, n'est-ce pas? Il s'ensuivra de là que non seulement tous les hommes sont méchants, comme disait l'Écriture, mais que leur méchanceté vient d'une imperfection naturelle, ce qu'on ne peut pas accorder sans blasphème. Donc les hommes ne sont pas naturellement méchants. Mais cette conséquence est mal tirée, et ce me semble. Car, encore que les méchants fussent en plus petit nombre que les gens de bien, toutefois, à cause que nous ne pouvons pas discerner les uns d'avec les autres, les personnes les plus modérées seraient nécessairement obligées de se tenir toujours sur leur garde, de se défier, de prévenir, de prendre leurs avantages et d'user de toutes sortes de défenses. Voilà une idée qui est très intéressante. La tentation, c'est de dire « tous les hommes sont méchants ». Non, pas méchants de nature, ce serait le blasphème. Mais on va dire, il suffit, dans le tas, qu'il y en ait quelques-uns qui le soient, pour que tout le monde soit en garde. Vous voyez, quand vous mettez votre cadenas ici, vous ne dites pas « tous les étudiants du centre CEP sont des voleurs ». Mais vous dites « il suffit qu'il y en ait un ». Tous les autres sont bons, il suffit qu'il y en ait un, ça suffit. Alors ça, c'est très intéressant, parce que c'est une philosophie non optimiste, comme vous voyez bien, mais qui n'est pas nécessairement noire. Elle ne dit pas « tous les hommes sont des méchants ». On dit « comme il est possible qu'il y en ait quelques-uns, faisons comme s'ils l'étaient tous ». C'est une espèce de fiction. Ce n'est pas un jugement moral, c'est « comme il y en a qui peuvent dérailler, faisons comme si tous ». Voilà. C'est le principe de nos, entre parenthèses, nos états libéraux. Là, on met des gendarmes au carrefour, non pas parce qu'on suspecte tous les automobilistes de vouloir systématiquement griller les feux rouges, mais parce qu'on se dit, il y aura peut-être un fou, un ivrogne qui va les griller. Voilà. Donc on met des flics. Mais le flic ne vous accuse pas si vous filez droit. Alors là, c'est un peu ça l'idée. Il suffit qu'il y en ait quelques-uns. Et la conséquence est encore moins légitime que ceux qui sont méchants le soient par un défaut de nature. Alors, je continue. Bien que les hommes aient ceci naturellement, c'est-à-dire dès leur naissance, qu'ils naissent animaux, qu'ils désirent et tâchent de faire tout ce qui leur plaît, et qu'ils fuient avec crainte ou qu'ils repoussent avec colère les maux qui les menacent, toutefois, ils ne doivent pas être pour cela estimés méchants, parce que les affections de l'âme, qui viennent de la nature animale, ne sont point mauvaises en elles-mêmes, mais bien quoi, quelquefois, les actions qui en procèdent, c'est à savoir lorsqu'elles sont nuisibles et contre le devoir. Si vous, alors, il prend l'exemple des enfants. Bon, ils vont crier, si vous leur imposez des choses, ils vont battre leur nourrice, dit-il. Ben, il y a un moment où ils vont comprendre ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, il va aussi jusqu'à dire, et ça c'est évidemment plus équivoque, que la méchanceté n'est autre chose que le défaut de raison dans le cas de l'enfant. Alors, je crois qu'il faut éviter interpréter ce texte comme si Hobbes était déjà un homme des Lumières qui disait « Envoyez-les à l'école et comprendront un jour que ». Non, le défaut de raison, c'est que je n'ai pas bien calculé que plutôt que de me battre contre les autres, je dois m'en remettre au Commonwealth. Voilà le défaut de raison. Je n'ai pas bien calculé les choses et donc je suis devenu, d'une certaine façon, déraisonnable. Alors, l'état de guerre, c'est ce qu'il appelle dans le Léviathan une disposition au combat. Par exemple, c'est tout à fait de la légitime défense. Aucun de nous, je pense, ne veut être un assassin. Mais si quelqu'un vous saute à la gorge ou vient cambrioler votre appartement, ben vous allez lui taper dessus et éventuellement le tuer. Bon, vous avez cette disposition A, sinon vous êtes une nouille. Bon, donc si vous voulez vivre, ben, vous allez vous en prendre à celui qui vous agresse. Ça ne veut pas dire, encore une fois, je crois que c'est très important, que nous sommes foncièrement méchants. Nous passons notre temps à calculer comment pouvoir tuer notre prochain. Mais si notre prochain nous saute dessus, ben, voilà, le droit de nature fait que nous allons rétorquer. Voilà, donc ce mot de méchanceté est équivoque. Il a une racine théologique sur laquelle nous allons venir en parlant de Luther. Mais je crois qu'il est très intéressant aussi de voir qu'on est loin de Rousseau et de l'homme bon. Et ça, je crois que c'est un des principes de nos philosophies libérales. Il faut partir du fait que l'homme a des passions, il ne faut pas chercher à les réprimer, il faut calculer le mieux-être à partir des passions. Et on pourrait dire l'économie moderne, c'est un peu ça. Consommer, mais calculer. Surtout, ne faites pas d'ascèse, parce que alors, si vous ne consommez plus, c'est la mort de tout. Voilà, nous allons nous arrêter là, faire une petite pause. Si vous voulez bien, pas trop long, parce que je voudrais que, si c'est possible, nous arrêtions un peu avant 7 heures, parce que je dois impérativement partir. Voilà, on peut reprendre si vous le souhaitez. Bon, je voudrais, avant qu'on fasse une petite discussion. Donc, il est entendu que je n'ai pas encore parlé de ce que Hobbes entend par la condition politique et la souveraineté de l'État. J'y reviendrai une prochaine fois. J'ai souligné simplement le côté condition naturelle et la nécessité d'en sortir. Alors, avant qu'on ouvre peut-être une question ou des discussions, je voudrais insister sur le paradoxe de ces positions. Je l'ai déjà laissé un petit peu entendre tout à l'heure, ces philosophies politiques se veulent des philosophies, je parle ici aussi bien de Machiavel que de Hobbes, des philosophies réalistes, et donc qui veulent prendre en compte ce que Machiavel appelle la réalité effective de la chose. La réalité effective de la chose. Et il ne faut pas partir d'idéaux. Donc c'est non seulement une critique des utopies, mais sans doute une critique des perspectives chrétiennes. L'homme considéré comme étant appelé à la charité, au dévouement, etc. Non, il faut partir de la réalité effective, donc se méfier des idéaux. Et donc aussi l'idée, ou peut-être le rêve, que j'ai souligné chez Hobbes, qui n'est pas présent chez Machiavel, l'idée d'un fondement scientifique, finalement, de la philosophie et de la politique, une vraie science du politique. Alors, c'est une idée qui va avoir beaucoup d'échos, et d'échos assez redoutables, mais, en tout cas, chez Hobbes, l'idée, c'est justement de ne pas partir d'idées toutes faites, mais de ce qu'il en est de l'homme. Le prendre tel qu'il est, et tel qu'il est, c'est un homme qui a des passions, c'est un homme qui veut vivre, droit de nature, et c'est un homme qui peut calculer son juste intérêt et donc la nécessité où il est d'entrer dans une société politique. Alors, chez Machiavel, il n'y a évidemment pas de tentative de fonder une science politique, il y a plutôt l'idée d'un art du politique. Hein, le prince, c'est un homme qui doit avoir du flair, qui doit sentir les événements, les anticiper, et qui doit faire preuve d'intelligence, voire de ruse, ruser avec des événements pour pouvoir éventuellement les tourner. Alors on pourrait dire aussi que cette perspective, en tout cas de Hobbes, c'est à sa façon une certaine utopie. C'est le rêve qu'on aurait une science du politique. Bon, que Hobbes caresse à moitié, ça reste une philosophie, ce n'est pas une science, mais enfin, on voit la tentation possible. Voilà, alors avant de passer au troisième point que j'avais annoncé, c'était les raisons de ce changement de paradigme, on peut peut-être revenir sur cette idée de condition naturelle. Si vous avez des difficultés à entrer dans cette perspective, c'est assez rude, oui. Il y a un calcul possible. Vous pouvez calculer quel est votre plus grand intérêt pour vivre. Et donc, vous calculez que vous avez plus d'intérêt à respecter le code de la route 50 à l'heure ou 30 à l'heure traverser le village que faire 150 à l'heure. Parce que s'il y a un flic ou un laser quelque part, vous risquerez d'avoir des ennuis. C'est pas une question de morale, c'est une question de calcul. C'est une moi j'aime pas donner des étiquettes. Mais certains disent c'est une philosophie matérialiste. Je ne sais pas si c'est matérialiste, c'est une philosophie utilitariste du calcul. On ne peut pas surmonter les passions, ça je crois pour Hobbes c'est tout à fait clair, mais on peut les neutraliser l'une par l'autre et calculer que son plus grand intérêt, nous allons le voir dans le Commonwealth, c'est d'obéir à la loi. Ça ne me fait pas plaisir, ça m'ennuie, bon, mais au total je m'aperçois que j'ai intérêt à le faire. Je crois que c'est un peu ça. C'est pour ça que je crois qu'il hésite sur le mot méchant, parce qu'il y a une tradition théologique qui le presse d'aller dans ce sens-là. Si on veut dire que l'homme serait naturellement méchant, non. Mais que la situation dans laquelle il est de heurt des passions et des vouloirs vivre fait que, comme je disais tout à l'heure, vous ne voulez pas tuer votre voisin, mais s'il vous saute sur le paletot, vous allez vous défendre et éventuellement le tuer. Ben, est-ce que vous êtes méchant? Oui, vous avez la possibilité de tuer, en effet, mais qui n'est pas toujours comme le temps. Hein, le temps est à la pluie, ben, ça ne veut pas dire qu'il pleut. Il pourrait pleuvoir, donc vous prenez votre parapluie. Il ne pleuvra peut-être pas. Vous ne tuerez peut-être personne, je le souhaite, mais ça peut arriver. Bon, je crois que c'est ça quand même un peu la pensée de Hobbes. Hein. C'est pas une pensée très optimiste, ça c'est sûr. Je crois qu'elle est très caractéristique de la pensée moderne, comme d'un grand courant de la pensée moderne. Oui. Je vais y revenir, là. Je vais le dire maintenant, oui. Oui, parce que ces philosophies ne tombent pas du ciel, hein. Oui. Et c'est-à-dire que c'est très logique, hein, si vous avez le droit de vivre et que ce droit de vivre vous donne capacité de dominer toute chose, vous avez forcément heurt avec les autres qui en veulent autant. Donc on est dans une position conflictuelle de principe. De principe. C'est pas quand les gens se battent, mais je reprends mon exemple d'une légitime défense, ils peuvent. C'est pas qu'ils sont tous voleurs, mais il suffit qu'il y en ait l'un ou l'autre. Parce que les désirs des uns ne sont pas ceux des autres. Donc, je dirais, le point de départ de la philosophie de Hobbes, c'est quand même une position conflictuelle de principe, puisque les droits de vivre se heurtent, et qui sont eux-mêmes illimités. Ça, c'est évidemment un postulat énorme, on a un droit de vivre absolu. Et donc, comme chacun en a un, on ne voit pas comment on peut éviter les heurts. Alors, par rapport à la morale, je corrige un peu, nous le reverrons plus tard, si vous voulez, la loi ou le bien et le mal, il va être décidé par le souverain. C'est le souverain qui va vous dire 30 à l'heure ou 120. Et qui va dire qui va dire ce qu'est le bien et le mal. Par exemple, les limites du droit de propriété, l'héritage. Vous ne pouvez pas désavouer vos enfants parce qu'ils ne vous plaisent pas. Le souverain a décidé que. Ah, donc la morale viendra du souverain. Alors ça pose d'autres problèmes, évidemment. Oui. Je ne peux pas répondre beaucoup à la place de Hobbes. Je crois qu'il vous dirait simplement qu'est-ce que vous voulez, la finalité de tout, c'est quand même de vivre. C'est quand même de vivre. Vous ne vous interrogez pas tous les matins pour dire est-ce que je dois vivre ou pas. Le désir de vivre est enraciné en vous. Je crois que c'est une idée assez profonde, finalement. Nous avons tous le désir de vivre et nous faisons tout pour ça. Si on est malade, on va voir le médecin. Enfin, pour lui, c'est une chose indiscutable. C'est ça la finalité. Alors on peut dire c'est plat, c'est matérialiste, il n'y a pas d'idéal. Mais le goût de vivre, c'est, je crois, essentiel pour lui. Alors, si vous avez le goût de vivre, alors là, c'est moi qui déborde, vous aurez le goût de transmettre la vie. Non? C'est plutôt les nihilistes qui n'ont pas le goût d'avoir des enfants. Mais là, c'est moi qui parle, hein, c'est pas Hobbes, je ne sais pas ce qu'il dirait là-dessus. Mais je pense qu'il dirait, oui, le droit de vivre, c'est... Le droit de nature, c'est vous porte à vouloir vous survivre dans des enfants, il me semble. Enfin, qui serait contre nature serait plutôt de pas répondre à ce droit de nature. Mais là, c'est moi qui dis. Hein. Je crois que ça serait assez logique. Ah, c'est une pensée forte. Hein. C'est une pensée très logique, très. Alors, j'en viens maintenant rapidement à cette, un peu répondre à vos questions. C'est mon troisième point. Je vais aller vite parce qu'on est choses connues. Pourquoi ce changement de paradigme où donc l'individu est au centre, la prise en compte de ses passions, il y a du calcul, etc. Alors, on pourrait donner beaucoup de raisons. D'abord, il y en a une qui me paraît absolument essentielle et qui est toujours citée. C'est pourquoi je ne vais pas y insister beaucoup. C'est évidemment qu'au XVIe siècle, la chrétienté, comme elle s'appelait à l'époque, a connu les guerres de religion. C'est un facteur décisif, évidemment, sur le plan théologique, mais sur le plan de la philosophie, c'est aussi quelque chose d'absolument fondamental. Alors, je ne dis pas seulement parce que, on le revoit aujourd'hui, ça conduit à identifier religion et violence. Quand on voit Al-Qaïda, on dit « Ah ben oui, bien sûr, ça, oui ». La religion, c'est la violence. Même si on fait un Vatican II un peu pour le décor, en fait, bon, s'ils étaient au pouvoir, ils en font autant. J'ai ce point de côté qui est un peu plat. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est plusieurs choses dans ces guerres de religion. C'est que d'une part, ben, je dirais peut-être trois éléments. Donc c'est les réformes de Luther, d'abord de Calvin, etc. C'est que on aboutit à une cassure de la chrétienté. Une cassure de la chrétienté et de son unité, au moment même d'ailleurs où elle découvre un nouveau monde, ce qui ajoute à ce que nous avions dit l'autre jour à propos de Pascal, le côté de « on est perdu, il n'y a plus d'unité, il n'y a plus de centre, l'Europe n'est plus centrale, il n'y a plus à l'intérieur de l'Europe une église qui structure tout ça, ça part en éclats ». Donc cette rupture de la chrétienté est évidemment énorme et surtout… cette rupture a entraîné beaucoup de violence. Les guerres de 30 ans, dévastation pratiquement de l'Allemagne. En France, on a connu ça aussi, peut-être à un moindre degré. Et donc, malgré ce que je viens de dire il y a un instant, il est sûr que le christianisme a paru être un facteur de violence. Et de violence, d'une certaine façon, insurmontable. Alors, ces guerres de religion, elles vont donner lieu à une réflexion philosophique qui est celle de Hobbes. Je vais y revenir la prochaine fois. C'est-à-dire, c'est la montée en puissance de la souveraineté des États. Donc, premier point, je dirais la cassure de la chrétienté, avec le surgissement des nations par certains côtés, et d'autre part, nous y reviendrons sur la souveraineté de l'État. Mais il y a une deuxième chose liée aux guerres de religion. C'est, pourrait-on dire, une sorte de défaite de la pensée politique d'Augustin. Alors, comme nous n'avons pas un cours de théologie politique, je ne vais pas développer la pensée d'Augustin, j'y reviendrai un peu la prochaine fois. Mais la grande idée d'Augustin, dans La Cité de Dieu, qui est un livre immense, absolument génial, c'est que seul le christianisme, c'est-à-dire l'Église, apporte la véritable paix. Les cités terrestres, pour lesquelles d'ailleurs Augustin, contrairement à ce qu'on croit, a la plus grande considération, les paix terrestres sont toujours transitoires. On fait des traités de paix, mais il y a toujours le vaincu qui va chercher à se venger, les traités de paix sont plus ou moins injustes, bon. Les nations désirent dominer les unes sur les autres. Bref, les paix terrestres sont toujours bonnes à prendre, mais elles sont toujours fragiles. Seule la paix de Dieu, qui est la charité régnant dans les cœurs, peut assurer la véritable paix. Et donc, c'est l'Église qui assure, au fond, qui livre cette véritable paix aux nations. Je résume très... Nous verrons... J'y reviendrai un peu la prochaine fois... Je souligne simplement ce point, c'est-à-dire que pour toute la chrétienté, il est certain que c'est le christianisme qui est facteur de paix. Vous voyez le drame, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est au nom du christianisme qu'on fait la guerre, ben, la position de saint Augustin est intenable. C'est pas encore une fois que, comme pour Aristote, Augustin se serait trompé. C'est que on ne peut plus rentrer dans ces... Enfin, on ne peut plus. Toujours, on dit, mais non, christianisme, vous nous dites que c'est la paix, mais pas du tout, puisqu'on se bat au nom du christianisme et qu'on se déchire, qu'on s'entretue dans toute l'Europe pour ça. Ça, c'est un point capital. Parce que, nous allons retrouver le problème de l'État, si l'Église ne peut plus assurer la paix, si les hommes se battent, peur mutuelle, qui va assurer la paix? Alors, la solution de Hobbes, vous la voyez venir. Si l'Église ne peut plus assurer la paix, c'est à l'État de l'assurer. N'est-ce pas? C'est à l'État de l'assurer. Ce qui est le renversement de la position d'Augustin, puisque c'est la paix terrestre maintenant qui va, grâce à la loi et au glaive du pouvoir politique, assurer la paix. L'Église, qu'elle reste dans la sacristie, n'est-ce pas? Qu'elle ne vienne pas encombrer, ça c'est la laïcité, qu'elle ne vienne pas encombrer l'espace public de ses querelles. Battez-vous dans les facultés de théologie, pas de problème, mais pas sur la place publique. L'État assure la paix. Retournement de la position d'Augustin. Je crois, on peut dire ça. Retournement de la paix d'Augustin. De la position d'Augustin. Alors ça, c'est un élément théologique et philosophique, évidemment, essentiel. Et puis, il y a un troisième élément qui va nous faire retrouver notre ami Hobbes, c'est que on se déchire dans la chrétienté sur des questions de fond. Aujourd'hui, nous regardons ça de loin, on dit justification par la foi, par les œuvres, qu'est-ce que ce discours? Ah oui, mais on se battait là-dessus. Et on se battait de manière telle qu'il n'y a pas de conciliation possible. Autrement dit, on se bat sur les fins de l'homme, sur son salut. Par quoi obtient-on le salut? Par quel chemin s'ouvre-t-on la vie éternelle? Est-ce que c'est par la foi seule, en lisant l'Écriture seule, par la grâce seule, ou autrement? Donc, on se bat, et la violence se déchaîne, au nom de l'idéal de l'homme, sur lequel on n'est plus d'accord. Alors, vous voyez déjà, notre ami Aristote, le bonheur, oh là là, le bonheur, mais c'est quoi? Le bonheur, c'est le salut par la foi, c'est d'être fidèle au Saint-Père le Pape, c'est de critiquer le Pape qui est un corrompu, c'est quoi le bien suprême? Alors, si on n'est plus d'accord sur le bien suprême, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, nous retrouverons Hobbes. Il faut partir de l'individu et de ses passions. Voilà la base. C'est pas l'idéal, puisqu'on se bat au nom de l'idéal. C'est pas l'évangile, si on n'est plus d'accord pour l'interpréter. Quelle est la base qu'on croit solide, et qu'il est d'une certaine façon, c'est les passions, le désir de vivre. Malgré tout ce qui sépare les hommes, ils ont tous le désir de vivre. Ah, ça, c'est un point fondamental. Ils ont tous le désir de vivre. Et ils sont tous capables de calculer les conditions pour assurer ce désir de vivre au moins mal. Voilà la base. Donc vous voyez, c'est pas nécessairement qu'on est matérialiste, comme disent les, je crois un peu les imbéciles. C'est pas encore moins du prométhéisme. Voilà le discours des sacristies. Le monde moderne, c'est le prométhéisme, l'homme qui se prend pour Dieu. Mon Dieu. Ops. Vous avez vu? L'homme se prend pour Dieu. L'homme est un loup pour l'homme. Prométhéisme? Ah bon? Bien sûr que non. Au contraire, c'est une baisse de tension. Alors on comprend tout à fait pourquoi le point de départ, ça va être l'individu d'un côté et les passions de l'autre. Donc, le premier point qu'on pourrait développer beaucoup plus, mais je pense que ça évoque des tas de choses pour vous. Les guerres de religion sont évidemment fondamentales pour les raisons que je viens de dire et pour d'autres. La violence liée au christianisme, l'impossibilité de continuer à tenir le discours augustinien sur la vraie paix qui vient de Dieu, et puis les divergences fondamentales sur l'idéal. Ça vous explique ce que j'avais dit l'autre jour, qu'on a des réticences dans une perspective moderne à se référer au bien, et on va plutôt parler du juste. J'ai cité Rawls, on pourrait citer Habermas. Puisqu'on n'est plus d'accord sur les fins ultimes, mais même qu'on se bat sur ces fins ultimes, ben, on se rabat, alors pour Habermas, c'est plutôt la discussion, la conversation commune, bon, tout ce que vous voulez, mais pour Hobbes, c'est, on va partir de l'individu, de son désir de survivre. L'individualisme moderne est enraciné dans cette affaire. Et par certains côtés, c'est aussi un héritage du christianisme. Alors, ça me conduit à ma deuxième remarque, c'est que la tradition chrétienne, et je ne crains pas d'affirmer que c'est peut-être le point le plus original du christianisme, c'est la distinction des royaumes. La foi chrétienne ne se contente pas de parler de Dieu et de César, ce qui est déjà beaucoup, mais la foi chrétienne, dans le message évangélique le plus fondamental et le plus constant, c'est d'annoncer un royaume qui est distinct du royaume des hommes. Jésus annonce, on peut dire c'est de la fiction, c'est du mythe, ce que vous voudrez, n'empêche que c'est un fait qu'il annonce un royaume qui n'est pas de ce monde et qui n'est dans lequel on ne peut pas rentrer avec les moyens du royaume des hommes. On rentre dans le royaume de Dieu, non pas par la puissance, par la domination, par la force, par la ruse, on y rentre par l'humilité, la charité, le service fraternel. Ce que, l'Évangile le dit à plusieurs reprises, les royaumes de ce monde ne connaissent pas. Donc, il y a, et nous retrouverions saint Augustin avec sa cité de Dieu, il y a deux royaumes. Non, alors, voilà, toute la tradition chrétienne va discuter. Est-ce que, du coup, ça dévalorise les royaumes terrestres? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul royaume ou est-ce que c'est un mythe? Comment articuler les deux? Bon, je rentre pas dans ce débat qui est immense et qui, je crois, est permanent. Je souligne simplement le point que la foi chrétienne annonce une dualité de royaumes. Et c'est pas seulement, comme on dit souvent, la fameuse formule du César, parce que si vous regardez le texte des évangiles, évidemment, Jésus ne fait pas une théologie politique quand il dit ça. Il essaie de se tirer d'un piège. Quand on lui dit, cette monnaie, à qui faut la donner? Regarde ce qu'il y a dessus. César, tu ordonnes à César. Il ne fait pas une théorie politique. Bon, mais dans les débats, dans les tables rondes, ça fait bien de dire Dieu César. Mais le point fondamental, c'est les deux royaumes. Alors, les deux royaumes, ça va se traduire dans l'idée que il y a deux instances de sens, si je puis dire. Il y a les royaumes terrestres et leur organisation. Disons l'Empire, les États modernes, et puis il y a d'autre côté la communauté des croyants, c'est-à-dire l'Église. Et la foi chrétienne pose en principe qu'il y a une distinction fondamentale, non pas nécessairement une séparation, encore moins une inimitié, on va discuter de tout ça, on y reviendra sans doute, il y a une distinction de fond. Les moyens du royaume, des royaumes terrestres ne vous donnent pas accès au royaume de Dieu. C'est pas la loi civile qui peut se substituer à la loi évangélique. La loi civile est nécessaire pour assurer la concorde entre les citoyens. Elle ne vous assure pas parce que vous lui obéissez, votre salut éternel. Et inversement, les lois de l'Église, ben, elles valent pour les croyants et pas nécessairement pour tout le monde. Donc il y a de principe une distinction. Vous ne la retrouvez pas, je m'excuse de heurter éventuellement des gens, ni dans le judaïsme, ni dans l'islam. Au contraire, dans le cas de l'islam, il y a une oumma qui embrasse la totalité de la société. C'est un autre système, je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, c'est un autre système. Et il ne faut pas nous faire croire qu'on trouve la même chose ailleurs. Évidemment, concrètement, il y a toujours des distinctions, mais je dirais théoriquement, théologiquement parlant, la distinction est foncièrement chrétienne pour des raisons que je viens de dire, on pourrait en ajouter d'autres. Ça veut donc dire deux choses éventuellement, peut-être même trois. Ça veut dire que le chrétien, tout en étant citoyen de ce monde, appartient aussi à une autre cité. Notre citoyenneté, dit saint Paul aux Philippiens, elle est au ciel. Alors, ça, tombant dans des oreilles aristotéliciennes, c'est une secousse. Parce que, comme je vous avais dit, pour Aristote, le véritable homme, c'est le citoyen. Or, saint Paul vient dire, sur la base de la distinction des royaumes, notre véritable citoyenneté, elle n'est pas sur terre, elle est au ciel. Donc, voilà une disjonction dont Hobbes, d'ailleurs, est à sa façon le témoin, car si vous lisez ce livre, Le Citoyen, vous avez trois parties. L'homme, première partie, le citoyen, deuxième partie, le chrétien, troisième partie. Alors, ça a l'air de rien, c'est une table des matières, mais si vous pensez à Aristote, absolument aberrant. Il y a une condition naturelle, une condition politique, puis, il ne parle pas en ces termes, mais il y a une condition chrétienne. Les trois, évidemment, vont ensemble, mais ne font pas bloc. Ça, c'est une première remarque très importante. Le chrétien appartient à la cité de ce monde, mais pas en totalité. Deuxième remarque, c'est quelle conséquence ça a sur la politique? Ben, la conséquence que ça a, c'est en effet de, alors, voilà, les mots piégés, distinguer, séparer, opposer deux institutions que vous ne trouvez pas non plus dans l'islam, à savoir des États et des églises. Alors, il y a toute espèce de figure, je ne vais pas rentrer là-dedans, on va dire que le christianisme dévalorise le politique, puisque d'une certaine façon, on va nous expliquer que l'essentiel est ailleurs, donc c'est une des thèses bien connues de Max Weber et d'autres, le christianisme réduit la politique à une administration des choses. Bon, il faut bien qu'il y ait des gendarmes, il faut bien qu'on soit des égouts dans les villes, bon, enfin, c'est pas avec ça qu'on assure le salut éternel de l'homme. C'est une administration. Bon, le politique, c'est même, on peut ajouter, c'est un peu sale, les égouts, la police, enfin bon. Vous voyez, donc il y a toute une tradition chrétienne de dévalorisation. Ou on peut dire à l'inverse, mais non. Le politique a sa consistance propre. Certes, il n'a pas les paroles de la vie éternelle, il ne vous donne pas les moyens de la vie éternelle. Mais précisément parce qu'il ne vous donne pas les moyens de la vie éternelle, dans son ordre à lui, pour parler comme Pascal, il a une fonction essentielle que l'Église ne remplit pas. L'Église vous donne les voies du salut, ben, c'est ce que disait Galilée. Moi, l'Église vous dit comment on va au ciel, moi je vous dis comment le ciel tourne. Pas la même chose. Bon, ne confondons pas les plans. Donc l'astrophysicien peut expliquer les... Bon, mais l'Église vous dit autre chose. Elle vous parle comme on va au ciel. Enfin, le ciel, c'est pas Gagarine sur la Lune. Alors, l'Église vous... Mais elle n'a pas assuré la construction des égouts ou la circulation sur les autoroutes. Donc le politique a sa consistance propre, qui est de faire vivre ensemble, pacifiquement, c'est ce que va nous dire Hobbes, les hommes. Par ailleurs, elle leur donne des finalités que la politique ne peut pas vous donner. Alors ça, c'est une distinction absolument essentielle. Les deux royaumes, alors, on voit bien, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, que la tradition augustinienne va donner une primauté au spirituel. N'est-ce pas? C'est le christianisme qui donne la paix. Et les princes, ben, ils s'occupent de choses importantes, mais qui sont quand même secondaires. Alors on va voir un retournement à nouveau avec la pensée politique moderne, c'est-à-dire que puisque le spirituel divise, c'est le temporel qui a la primauté. Il faut d'abord faire vivre les gens ensemble, tâche de la politique. Puis si ensuite ils veulent discuter sur la prédestination, sur la justification par la foi, grand bien leur fasse, mais qu'ils ne viennent pas troubler l'ordre public. Et donc le spirituel est secondaire. On ne va pas dire qu'il est inutile, sauf des athées conséquents, mais on dira qu'il est secondaire et que l'essentiel, c'est d'assurer le bien-vivre des gens. Donc, il y a une sorte de différenciation entre le spirituel et le temporel, le politique et le religieux, l'Église et l'État, tous ces termes demanderaient évidemment à être précisés. Voilà, donc je rappelle simplement l'histoire des guerres de religion. Donc Luther, je rappelle les dates, si vous voulez, c'est 1483-1546. Calvin, c'est 1509-1564. Voilà, alors ce qui est important, c'est évidemment la dualité des pouvoirs, qui est une spécificité, me semble-t-il, enfin, ça ne me semble pas, j'en suis absolument certain, de la tradition chrétienne. Et remarquez bien, nous sommes toujours à débattre de ça. Parce qu'on dit différenciation. Ben, j'anticipe sur ce qu'on dira plus tard. Différenciation. Eh oui, mais il n'y a pas une frontière coupée au couteau. Il y a des terrains communs. Par exemple, l'éducation des enfants. On les confie à l'État et l'Église n'a rien à dire. Le mariage, ça relève de qui? Ça relève de l'État. L'État a besoin de mettre son nez là-dedans. Mais, d'un point de vue chrétien, quand même, se marier, c'est pas un geste banal, donc ça relève de l'Église aussi. Alors, on passe la frontière, etc. Bon, on peut s'amuser. Donc, ça veut dire que c'est une frontière flottante et qu'il y a toujours des discussions, nécessairement. Alors, le troisième élément sur lequel je voudrais insister, c'est dire un mot quand même, et plus qu'un mot, sur la position de Luther. Je vous ai donné un texte, je pense que vous l'avez. Nous le regarderons de tout près la prochaine fois. Alors, je voudrais dire deux choses en développant un peu plus ce qui est sur le plan. Je voudrais d'abord dire un mot, parce que Luther se veut dans la tradition d'Augustin, il était lui-même religieux augustinien, et donc je vais revenir en deux mots sur la position de saint Augustin, et je crois qu'elle éclairera ensuite la position de Luther. Alors, saint Augustin, c'est 354-430, Afrique du Nord, évêque d'Hippone, invasion des barbares, à nouveau, ça c'est un point évidemment tout à fait capital, côté culturel. Saint Augustin va mourir assiégé dans sa bonne ville de, comment s'appelle-t-elle déjà, de Panama. Alors, je vais souligner simplement deux aspects de sa pensée politique. Vous savez, la pensée d'Augustin est immense, hein, mais il y a, dans La Cité de Dieu, qui est un livre absolument à lire, hein, il y a toute une théologie politique. Alors, le premier point, c'est celui que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la Cité de Dieu seule offre la véritable paix, ce qui ne veut pas dire, et là nous déboucherions sur certaines interprétations, que pour Augustin, la cité terrestre n'a pas sa valeur. Bien au contraire, saint Augustin dit clairement que les chrétiens, comme les autres hommes, ont intérêt à la paix et qu'ils collaborent avec tous les autres au bien-vivre de tous, bien entendu. Et encore une fois, c'est l'actualité de son temps. Quand Rome s'effondre, ben, les chrétiens trinquent et se font massacrer par les vandales comme les autres. Donc les chrétiens, ils sont partie prenante de la vie terrestre et donc ils y participent. Là-dessus, je crois que la position d'Augustin est tout à fait claire. Il n'y a pas du tout chez lui, me semble-t-il, même si quelquefois il parle de la cité des ténèbres, une dévalorisation de la cité terrestre. Mais la grande question d'Augustin, c'est de savoir pourquoi il y a un pouvoir politique. Pourquoi les hommes dominent sur les autres? Pourquoi le pouvoir? Et pourquoi la contrainte de la cité terrestre, alors que, selon la volonté de Dieu, l'homme ne devrait pas commander à l'homme? grandes perspectives théologico-politiques. Il est contre la volonté de Dieu que l'homme commande à l'homme. Or, dans la politique, il y a une subordination des hommes à d'autres hommes, ou à la loi. Comment expliquer ce paradoxe ou cette contradiction? Alors je vais lire un texte du livre 19 de la Cité de Dieu, chapitre 15. Voilà ce que prescrit l'ordre naturel. Ah, encore notre nature. Mais l'ordre naturel ici, comme vous allez voir tout de suite, c'est la première page de la Genèse. C'est la création sortant des mains de Dieu. C'est ce que Dieu a voulu par principe. Voilà ce que prescrit l'ordre naturel et dans quelles conditions Dieu a créé l'homme. Cite la Genèse, « Qu'il domine, a-t-il dit, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui rampent, à la surface de la terre. » Fin de citation. « L'être raisonnable, commande saint Augustin, fait à son image, donc l'être raisonnable fait à l'image de Dieu, il ne veut pas, Dieu ne veut pas, qu'il domine sur d'autres que sur des êtres irraisonnables. » Voilà, belle thèse. Le Dieu de raison ne veut être lui-même obéi que par la raison. Et si l'homme doit dominer, ça ne peut pas être sur des êtres de raison, puisque Dieu lui-même ne domine pas comme ça les hommes. Il domine par une loi qu'ils sont capables de comprendre. Donc, il ne veut pas qu'il domine sur d'autres, sur les êtres irraisonnables. Il ne veut pas que l'homme domine sur l'homme, mais l'homme sur la bête. Aussi, les premiers justes furent établis plutôt pasteurs de troupeaux que rois des hommes. Ah, c'est intéressant. Saint Augustin, je lis la Genèse, le premier chapitre, je ne vois pas droit. Je vois qu'on dit, vous dominez la nature, pas droit. Mais des pasteurs, des bergers, qui dominent en effet sur les animaux. Ainsi, les premiers justes furent établis plutôt pasteurs de troupeaux que rois des hommes, Dieu voulant ainsi nous apprendre ce que demande l'ordre de la création. Alors ça, c'est une thèse très intéressante, une théologie anarchisante, qui est peu exploitée par les théologies en général. L'homme n'est pas fait pour dominer sur l'homme. Ça, c'est une thèse théologique fondamentale, magnifique. Et en même temps, oui, mais pourquoi l'homme domine sur l'homme, malgré tout? Ah, ben voilà, c'est le péché. C'est le péché. La cause première de l'esclavage, c'est-à-dire, bon, il fait une assimilation redoutable, enfin, entre esclavage et domination de l'homme sur l'homme. La cause première de l'esclavage, je dis ceci, toujours dans saint Augustin, c'est le péché qui fait que l'homme tient l'homme en laisse et toute sa destinée. Et cela n'arrive que par le jugement de Dieu, en qui il n'est point d'injustice et qui sait mesurer les peines aux démérites. L'homme. Alors, selon la parole du divin maître, quiconque pêche est esclave du péché, et par conséquent un grand nombre de fidèles sont esclaves de maîtres injustes, maîtres qui pourtant ne sont pas libres. L'homme, en effet, est esclave de ce qu'il a vaincu, c'est une situation de l'épître de Pierre. Et certes, l'on est moins malheureux esclave d'un homme que d'une passion, car la plus cruelle domination qui ravage le cœur des mortels, n'est-ce pas, entre autres, la passion de dominer. Or, dans cet ordre de paix, qui tient l'homme sous la dépendance de l'homme, comme l'humilité est utile à l'esclave, l'orgueil est funeste au maître. Toutefois, dans l'ordre naturel où Dieu a d'abord créé l'homme, nul n'est esclave de l'homme ou du péché. Mais la peine de la servitude, c'est-à-dire de la domination, est ordonnée par cette loi qui veille au maintien et défend l'infraction de l'ordre naturel. S'il n'eût jamais été attenté contre cette loi, il n'y aurait point de répression à exercer par le châtiment de l'esclavage. Alors, qu'est-ce que saint Augustin veut dire? C'est que par le péché, l'homme s'est lui-même soumis à ses passions. Il a accepté que les passions dominent sur sa raison. Autrement dit, il s'est fait lui-même esclave de lui-même. Il s'est subordonné à ses propres passions. Et donc, il a agi contre la volonté de Dieu, qui ne voulait pas de cette domination, mais il a succombé à l'esclavage en lui-même. Et à partir du moment où il succombe à l'esclavage en lui-même, il a succombé aux passions des autres. Il s'est livré à toutes sortes de passions, d'où l'esclavage. Cela veut dire par conséquent que la sphère du politique est pensée sous la catégorie du péché, à la limite même du non-naturel. Nous allons retrouver un peu chez Luther, je vous inviterai à lire le texte entre les séances. Dieu n'a pas voulu la subordination de l'homme. Dieu n'a pas voulu la politique, d'une certaine façon. Alors, ça c'est un gros, j'allais dire, boulet. C'est une grosse... que porte une certaine tradition chrétienne. L'ennui pour saint Augustin, et je vais terminer là-dessus, c'est que cette subordination lui permet de justifier l'esclavage. Je relis à nouveau, s'il n'eût jamais été atténué contre cette loi de domination de soi, il n'y aurait point de répression exercée par le châtiment de l'esclavage. C'est pourquoi l'apôtre invite les esclaves à demeurer soumis, à servir de cœur et de bonne volonté, afin que, s'ils ne peuvent être affranchis par leur maître, eux-mêmes affranchissent, pour ainsi dire, leur propre servitude, témoignant dans leur service non l'hypocrisie de la crainte, mais la fidélité de l'affection, jusqu'à ce que l'iniquité passe, et que toute souveraineté, toute puissance humaine étant anéantie, Dieu soit tout en tous. Magnifique texte, n'est-ce pas, qui va servir au prédicateur pour dire aux pauvres, vous en bavez, c'est la juste punition de Dieu, mais vous pouvez vous racheter en étant humble, en étant de bons serviteurs de vos maîtres, et un jour, quand Dieu sera le seul souverain, eh bien vous aurez votre récompense. Vous voyez ? Bon, laissons de côté l'esclavage, mais on voit très bien le problème de la domination politique qui est comprise comme le résultat du péché. C'est-à-dire le pouvoir n'est pas voulu directement par Dieu. Il y a une belle idée, l'homme n'est pas fait pour dominer sur l'homme. Mais du coup, c'est à cause des défaillances humaines, du péché, que finalement la domination s'installe. Avec l'idée que nous allons retrouver chez Luther, je vous conseille de lire le texte pour la prochaine fois, c'est que si nous étions tous chrétiens, si nous ne suivions pas nos passions, si nous étions vraiment fidèles à l'Évangile, alors nous ne volerions pas, nous ne ferions pas d'adultère, nous ne tuerions pas, bref, il n'y aurait plus besoin de gendarmes, ni de prison, ni de politique, ni même de loi. Seule la loi de charité dominerait en nous. Si tous nos frères étaient chrétiens, il n'y aurait pas besoin de politique. Si vous permettez, on pourrait s'arrêter là, parce que je dois partir. Donc, nous ne nous retrouvons pas avant un certain temps, je crois jusqu'au... Alors, au mois de février, je crois le... Dans 3 semaines, oui, le 14, je crois, hein. Jeudi. Voilà, ça vous donne le temps de lire Luther.